I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. J'ai failli dire tech, mais c'est parce que je suis encore un tout petit peu en vacances. Je viens de revenir en France il y a quelques jours à peine et je profite de la canicule parisienne. Et en plus de ça, il y a des travaux juste en face de chez moi. Donc j'espère que ça s'entendra pas trop dans l'émission. Mais je vous dis, je suis content d'être revenu. La canicule et les travaux, c'est super. Heureusement, j'ai avec moi, pour m'aider à faire passer cette pilule, les amis JK et Sylvain du podcast ZQSD qui vont venir commenter l'actu pour ces deux dernières semaines. Comment allez-vous, messieurs ?
Très bien. Mais
ça va, merci. Merci de l'invitation une fois de plus.
Merci, ouais.
Oui, bah JK, t'es ouais, maintenant chez bon, toi. Sylvain, oui, c'est même peu, le ouais. quoi, troisième, quatrième épisode.
Un donc, truc comme ça, je compte plus en tout
oui.
cas.
Oui. Oui, ouais. oui, non, mais vous alors, êtes à la maison, installez-vous,
on
mettez
un
les
petit peu à l'aise. Bah, moi, je suis en caleçon, hein, là, je te l'ai pas dit, mais là, je suis tranquille. Hein.
Bah, écoute, je crois que là, ces jours-ci, la moitié de la France est en caleçon, donc exceptionnellement, on t'excusera.
Ceux qui travaillent chez eux ont la chance de pouvoir bosser en caleçon, effectivement.
Ouais, voilà, les autres font ça. Des travaux, à côté de chez Patrick.
Exactement. Oui, non, c'est vrai que, je plaisante, hein, c'est quand même très sympathique d'être revenu à la maison, surtout que j'ai passé 6 semaines à l'étranger. C'était, je crois, le plus long temps que j'ai passé à l'étranger depuis que je vivais au Japon, quoi, il y a plus de 10 ans. Mmh. Donc, c'était. Mais c'est l'avantage d'être, de travailler de chez soi, c'est qu'il me suffit d'un ordinateur et je peux travailler de n'importe où, quoi.
C'est beau la technologie. Cool.
Mais oui, c'est merveilleux. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le podcast résumant l'E3 2015 qu'on avait fait, moi j'étais en Finlande justement et JK était ici, on avait Diraen aussi, vous pouvez aller l'écouter, c'est l'épisode précédent et ça fait 3 semaines en fait qu'on n'a pas fait d'émission. Donc voilà, on est de retour, c'est bon, tout est reparti et on a des choses dont on peut vous parler. Vous aussi, ça va bien, le ZQSD, tout marche bien ?
Ah bah, ZQSD va bien, on a enregistré un numéro la semaine dernière et c'était bien, on a parlé de Blizzard d'ailleurs, Patrick, tu le sais, parce que tu es venu commenter.
Par chat, par JK interposé.
T'as pas débarqué dans la salle en hurlant pendant que tapons dessus.
Exactement.
Et donc ce sera en ligne bientôt, hein.
ce sera en ligne ce soir normalement.
Ah, même ce soir, c'est...
Bon, ça fait de quoi vous occuper sur les plages et exactement. Pendant l'été. Et on parlera de tout le reste de ce que vous faites en fin d'émission. Mais en attendant, parlons un petit peu du gros sujet qui a animé les débats fiévreux des fans de PC et, même pas en fait, j'allais dire des fans de consoles, mais en fait pas vraiment, pas ces ça. Dernières semaines. C'est la sortie de Batman Arkham Knight qui a eu des gros, gros problèmes sur PC. Et c'est marrant parce que Les fans de PC sont généralement assez convaincus de la supériorité de leur plateforme. Et j'avoue que moi-même, étant grand fan de PC, je fais souvent partie de ce camp. Mais c'est toujours marrant parce que là, en l'occurrence, il y a eu une sortie sur console qui était vraiment assez impeccable. Je dirais une sortie qui était normale. C'est-à-dire que le jeu est sorti et il marchait sur console. Ouais. Donc on applaudit. Hein, le jeu marche quand il sort.
Enfin, sur PS4, il y avait quand même un patch de 5 gigas à télécharger. Mais bon, c'est pas grand-chose comparé au PC.
Le jour de la sortie.
Le jour de la sortie, ouais.
Et sur PC, par contre, il avait des bugs assez importants. Il y avait des problèmes de framerate. Donc, le jeu tombait à 8 images par seconde, 14 images par seconde, voire même une sorte de format PowerPoint quand on appelait la Batmobile. Et le problème... Alors, c'était marrant parce que le monde du PC était, s'est enflammé, bien sûr. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui avaient ce problème. J'ai aussi entendu parler de personnes qui ne l'avaient pas du tout. Donc, c'était pas tout le monde non plus, mais le monde s'est enflammé. Et c'est marrant parce que on aurait pu tendance à avoir dire que, on aurait pu avoir tendance à dire que, voilà, si je mets les mots dans le bon ordre, les phrases se sont plus compréhensibles. On aurait pu avoir tendance à dire que les fans de consoles se marraient dans leur coin. Mais en fait, non, les fans de consoles, ils s'en foutent un peu de cette rivalité feinte entre PC et console. Ils étaient juste en train de jouer, eux. Donc, moi, je montrais mon point vengeur de leur côté. Et puis, j'ai acheté la version PS4, c'était plus simple. Mais bon, on a quand même eu des informations sur tout ça, a fortiori. Après la sortie, on a des gens qui font partie de l'équipe de Quality Assurance, donc les gens qui vérifient la qualité des titres, de chez Warner, qui est l'éditeur du jeu, qui ont témoigné. C'était chez qui? C'était chez Kotaku, je me souviens même plus.
Je crois, oui, que c'est sur Kotaku.
Ouais.
Ce que disait Polygon, en tout cas.
C'est ça. Donc, ils sont allés parler à Kotaku pour dire que ce port PC qui a été géré par une autre société, c'était Irrational.
Iron Galaxy.
Oui, Iron Galaxy, pardon. Qui a été géré par eux, avait des problèmes depuis plus d'un an. Et comme Rocksteady, le développeur du jeu, avait des problèmes déjà pour la version PS4 en particulier, ils ont affecté une énorme partie de leurs équipes de test à la version PS4 pour s'assurer, enfin PS4 et Xbox, pour s'assurer qu'elle fonctionne vraiment bien. Et la version PC est complètement tombée enfin c'est devenu la 12e roue du carrosse. Et évidemment, on se demandait quand il est sorti, mais comment est-ce qu'il pouvait ne pas savoir? C'était évident qu'il savait, parce que le jeu marche tellement mal que c'était évident qu'il savait. Et là, on a eu la confirmation, ça faisait des mois et des mois qu'ils avaient ces problèmes. Et donc là, moi, je me dis, mais... est-ce que, enfin, finalement, Warner a décidé de retirer le jeu de la vente, sur Steam notamment, au bout de quelques jours à peine, hein, donc il est resté en vente très peu de temps, mais si c'était pour arriver à un résultat comme ça, pourquoi ne pas décaler la sortie PC de quelques semaines ou de quelques mois, même si c'était pour avoir une sortie aussi ratée? Et en même temps, je me dis, mais... qu'est-ce qu'on peut faire là? On est à un niveau où on sait qu'il y a des jeux qui sortent en mauvais état, mais malgré ça, ça continue. C'est un petit peu un constat d'impuissance qu'on fait par rapport à cette sortie, non?
Bah, disons, en plus, le problème, c'est que ça risque de pénaliser le marché du PC, parce que y a plein de joueurs qui effectivement ont un PC et préfèrent la version PC la plupart du temps. Moi, en général, c'est le cas. Mais là, moi, pour le prochain gros blockbuster qui va sortir, je vais peut-être réfléchir à est-ce que je prends la version PC, est-ce que je prends la version PS4. Là, par exemple, Batman, j'ai pris la version PS4, j'ai eu le nez creux. Et c'est vraiment triste. En plus, Warner, c'est quand même pas la première fois que ça leur arrive. Je crois que Mortal Kombat 10 avait eu les mêmes problèmes. Avait eu des problèmes de stabilité sur PC. Ouais.
Shadow of Mordor était bien sorti, mais Mortal Kombat, effectivement, mais pas aussi important.
Non, c'est sûr. Après, moi, je l'ai quand même essayé sur PC. Bon, j'ai une machine qui est plutôt puissante, c'est un portable, hein, mais il a avec une carte graphique Nvidia, vraiment de dernière génération, la 980M, et j'ai pas constaté de problème, honnêtement. Hein. J'ai joué peut-être 20 minutes, hein, le temps de voir comment ça tournait. Ça tourne plutôt correctement, ça tourne sans doute à 30 FPS. C'est probable, mais au moins j'ai pas constaté ces grosses chutes de framerate chez beaucoup de gens qui sont chez beaucoup de gens, quoi.
Même en appelant la Batmobile, parce que là,
c'est à ce moment-là que
le jeu part vraiment complètement en vrille, quoi. C'est vrai qu'avant, que tant qu'on n'appelle pas la bagnole, en fait, ça peut faire plus ou moins illusion. Alors, il manque ça et là quelques textures, et le rendu est peut-être pas toujours aussi fin que sur console, ce qui paraît quand même une aberration.
Ce qui est fou, ouais.
Mais le jeu fait quand même plutôt illusion, quoi. Il y a de temps en temps un petit freeze, mais dès qu'il y a la Batmobile, là, c'est une image toutes les 20 secondes, quoi.
Ouais. Et surtout que la Batmobile, enfin en tout cas au début, moi j'ai joué un petit peu, elle est là tout le temps, quoi. C'est vraiment le gros truc, et moi je pensais qu'il y aurait genre 2-3 missions par-ci par-là, mais c'est un des nouveaux piliers du gameplay, donc...
Ouais.
Ah bah complètement, d'ailleurs c'est un des reproches que souvent on peut faire au jeu, c'est que la, Batmobile est un peu trop exploité dans le jeu, mais bon.
Bah ça, on peut en parler dans une minute. Je voudrais qu'on donne nos impressions sur le jeu également. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a... parce que avant, enfin jusqu'à l'année dernière, on se disait bon, il faut pas précommander les jeux et donc ça donnera aux éditeurs et aux développeurs, ça leur fera passer le message qu'il faut faire attention à ce que les jeux soient bien finis. Et là, en l'occurrence, bah ils ont décalé le jeu, je sais plus, peut-être 3 fois pour s'assurer qu'il soit bien fini, mais c'était spécifiquement pour les versions consoles ou en tout cas pour la version PlayStation. Et par contre, la version PC, on sait que le marché est plus petit sur PC que sur console, surtout pour des jeux multiplateformes et grand public comme celui-là. Ouais. Mais on peut rien faire là pour le coup. Ou alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut envoyer comme message à Warner, à part le fait de ne surtout pas acheter Mad Max qui va sortir en septembre, toujours édité par la Warner, de ne surtout pas l'acheter sur console, sur PC. Ou enfin, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi conseiller aux auditeurs.
Ben en fait, il y a quand même un vrai problème qui est celui de, c'est quasiment une escroquerie quoi, à ce niveau-là, parce que je veux dire, comme tu le disais avant, ils pouvaient pas savoir, ils pouvaient pas ignorer les problèmes qu'il y avait sur cette version. Après, c'est vrai que Iron Galaxy avait déjà fait les Batman Arkham Origins aussi, et ça, qu'il y avait pas eu de problème plus que ça, tu vois. Donc là, ils ont vraiment eu vent de ces problèmes-là avant coup, et là, ben ouais, c'est vraiment une escroquerie. Bon. C'est, je sais pas, à part faire des pétitions ou aller manifester, j'en sais rien, mais c'est bien compliqué, quoi.
Ou alors, attends, je vais faire un petit truc marrant. Allez brûler des Uber Pop, peut-être? Visiblement, c'est un moyen de se faire entendre.
Je pense que les taxis, effectivement, pourraient se mêler de l'histoire, ça pourrait régler le problème.
Un taxi Batman.
Mais d'ailleurs, soit
demander à Taylor Swift de faire un mail sur Tumblr.
On sait jamais, ouais. Mais c'est même étonnant qu'il n'y ait pas déjà une class action aux États-Unis, un truc comme ça de consommateurs, qu'il n'y ait pas déjà un procès en cours, quoi, parce que, après la communauté PC, tu dis qu'effectivement c'est sans doute des ventes infimes par rapport aux versions console, mais la communauté PC est quand même une communauté peut-être plus bruyante entre guillemets que la communauté console, ou peut-être qu'il y a, je pense qu'il y a vraiment une grogne de la part des joueurs PC. Après, c'est un cas, je sais pas si je dirais que c'est un cas isolé, mais c'est rare de voir quand même un portage PC. Enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un portage PC aussi aussi foiré, quoi.
C'est vrai que souvent il y a des jeux qui ont des problèmes sur toutes les plateformes, mais oui. Tu as donné une piste en fait là qui est, je pense, la bonne. C'est la question des associations de consommateurs qui existent et qui sont fortes en France et aux États-Unis et partout. Il serait peut-être temps que les associations de consommateurs commencent à s'intéresser à ce problème des jeux qui sortent pas finis. Et certes, parfois il y a des petits bugs par-ci par-là qui posent des problèmes, mais pas qui sont pas rédhibitoires. Là, on a eu un certain nombre de soucis. Alors, généralement, les développeurs compensent par eux-mêmes en offrant des choses, en faisant des cadeaux d'assez grande valeur aux joueurs. Et je pense que ça calme le jeu de lui-même. Il faudra voir ce que va faire Warner avec Batman, quoi.
Je disais que ça faisait longtemps, mais j'avais oublié quand même, il y avait eu Assassin's Creed Unity l'année dernière chez Ubisoft.
Il y a Master Chief Collection, comment ça s'appelle, Drive Club. Si on remonte à un an, il y en a eu plein, quoi.
C'est pas propre à la version PC, cela dit, mais c'est sûr. C'est vrai qu'Ubisoft avait quand même fini par réagir en faisant ce geste commercial, donc d'offrir un jeu ou un DLC. Enfin, il y avait un peu les deux, ce qui était, on va dire, la moindre des choses, mais au moins ils ont fait quelque chose, quoi. Moi, je trouve ça incroyable qu'ils aient retiré carrément le jeu de la vente, quoi. C'est vraiment.
Ça prouve que les problèmes étaient, le jeu était pas jouable.
Ouais, voilà, c'est fou, quoi. Et en plus, pour le moment, ils ont annoncé aucune date pour le retour du jeu sur PC, et d'après les quelques échos que j'ai pu avoir et qu'on ait pu avoir, ce serait sans doute pas avant plusieurs semaines voire mois, quoi.
Rocksteady a annoncé qu'il s'attelait à la tâche et que la tâche était volumineuse, on va dire, et là ils y vont vraiment, ils y vont sérieusement. Je pense que Rocksteady est pas du tout content de la manière dont ça s'est passé. Mais bien sûr, il faut qu'ils fassent les choses bien. Là, ils vont prendre le temps, ça va prendre le temps que ça va prendre, et quand ils seront prêts et qu'ils sauront combien de temps ça va prendre, je pense que le jeu sera pas fonctionnel avant une ou deux semaines encore. Enfin, il ne reviendra pas à la vente, en tout cas. Et à ce moment, ils annonceront les choses qu'ils vont faire pour compenser. Mais bon, ceci dit, le jeu, il est quand même pas mal. Moi, j'y ai joué. Donc, je suis rentré il y a quelques jours à peine. J'ai eu le temps de me poser pour l'essayer. C'était il y a 2 jours. Donc, j'ai eu le temps de me poser quelques heures. J'y ai joué, je sais pas, peut-être 3-4 heures, quelque chose comme ça. Est-ce que vous y avez joué, vous ?
Ouais, moi je dois être à peu près à 20h, je pense.
Ah, quand même, d'accord.
De jeu, donc ouais, sur PS4. Et oui, oui, c'est comment dire, c'est vraiment un excellent épisode. Moi, j'avais été un peu, enfin, disons que le soufflet était un peu retombé. Il y a eu Arkham City qui était pas mal, mais finalement, que j'avais pas adoré. Et Arkham Knight, Arkham Origins, je l'ai pas fait.
Origins, oui.
Voilà. Et dans celui-là, en fait, je retrouve un peu la folie et l'audace de mise en scène qu'il y avait dans le premier, parce qu'il y a plein d'idées de mise en scène et d'idées de scénario.
Alors,
je vais absolument pas spoiler. Ouais. Oui, non, bien sûr. D'autant plus qu'il y a vraiment des surprises et des choses qui se passent qui sont vraiment très 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 bien trouvées et qui en plus s'intègrent dans le gameplay de manière extrêmement surprenante, quoi. Donc ça c'est vraiment génial. Je sais que on en parle dans le dernier ZQSD, Kevin disait que oui, lui c'est clairement ce qu'il avait plu dans le jeu, ce qu'il avait accroché. Il y a vraiment une sorte d'ambiance de folie, vraiment de folie pure dans le jeu qui est vraiment intéressante. Et après, en termes de gameplay, c'est extrêmement carré, hein. On va pas dire qu'ils ont réinventé le concept, parce que ça reste un mélange donc de combat au corps à corps, d'infiltration, d'enquête. Alors la partie enquête a été vraiment améliorée, je trouve que la partie détective est super. Il y a vraiment des très très bonnes idées, encore une fois, de gameplay pour vraiment conduire une enquête. Ça, c'est très cool. Et puis la Batmobile, je sais pas, Patrick, toi, ce que tu penses du gameplay de la Batmobile, mais moi je le trouve plutôt bon, même si peut-être qu'ils en font un peu trop, quoi.
Ouais, c'est franchement le jeu dans son ensemble, moi je le trouve super super réussi. J'avais adoré City et Asylum. J'avais même préféré City. J'avais beaucoup apprécié l'ambiance de monde ouvert où on pouvait se balader dans toute la ville et voler dans toute la ville presque, qui était super bien foutu avec ce harpon qui nous lançait dans les airs. Origins, j'y ai joué un petit peu, mais il m'a pas accroché. Et du coup, je me demandais si la formule Batman était pas un petit peu, qui a été, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le mode de combat de Batman a été hyper hyper important. Il s'est répandu ensuite sur énormément de jeux. C'est une vraie trouvaille de gameplay. Il y a des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Moi, je le trouve très très bien réussi. Mais donc, je me demandais si, au bout de ce qui est effectivement un quatrième épisode, il s'était pas un petit peu essoufflé, que je le retrouverais avec plaisir, mais sans grand enthousiasme. Eh bien, en fait, vraiment, dès le début, il m'a accroché. Alors, j'en suis à, je sais pas, comme je disais, peut-être 3 ou 4 heures, donc ça se trouve, ça s'essouffle sur le long terme, mais il y a plein de choses hyper bien pensées. Comme tu le disais, les histoires d'enquête sont intéressantes et nouvelles et innovantes à chaque fois. Le moyen par lequel... Enfin, moi, ce qui me faisait peur, en particulier après avoir joué un peu à Origins, c'était le bloat. Ça a trop grossi, il y a trop de fonctionnalités, il y a trop de mouvements, il y a trop de coups, il y a trop de combos, il y a trop de trucs. Et du coup, on s'y retrouve plus. Et en fait, ils ont réussi, avec cette astuce de scénario, dont je vais pas parler, mais enfin qui est vraiment minime, à faire une sorte d'amélioration de tout ça. Et par l'interface, ça fonctionne vraiment et ça reste compréhensible. Et au niveau du scénario, encore une fois, et de l'écriture, c'est vraiment significatif, je pense. Dans Origins, on voyait un truc qui était, on dit en anglais, formulaic. C'est-à-dire, ça suit la formule. On a Batman dans la ville, il doit tuer des gens, et voilà, et il se bat, et on a le système de combat qu'on connaît, on a ci et ça. C'était plus de ce qu'on connaissait déjà. Là, on sent qu'il y a vraiment des créateurs, des artistes chez Rocksteady, qui se sont dit, comment est-ce qu'on peut travailler ce truc pour le rendre encore meilleur, pour améliorer sérieusement, sans juste ajouter des fonctionnalités qui n'ont pas lieu d'être dans le combat de Batman ou dans les trucs d'enquête, où ils ont tout amélioré, ils sont départis de la lourdeur et ils ont réussi à en faire quelque chose de vraiment réussi, à mon sens. Je suis tout à fait séduit par ce nouvel épisode et j'étais pas convaincu que ça arriverait. Maintenant, il y a le cas de la Batmobile qui, franchement, à mon sens, est pas super à sa place, on va dire. C'est pas mauvais. Il y a des passages marrants. C'est jamais, ça nous donne jamais l'impression d'être complètement inutile. Mais par contre, ça s'inscrit pas vraiment dans le mode, dans l'esprit de Batman. On en a beaucoup parlé sur le net et ailleurs. Genre, comme par hasard, les ennemis envoient des chars qui sont en fait des drones sans conducteur. Parce que sinon, Batman, il peut pas les faire exploser, hein, puisqu'il tue jamais jamais personne. Bah là, ouf, il y a des drones sans conducteur. Ah bah ça va, je peux envoyer des gros missiles dessus.
Il y a des drones par centaines de milliers, quoi.
C'est ça.
Le budget drone.
Il est au courant que c'est des drones, tu vois, donc ça va.
Bah oui,
le frère lui dit, je crois, au début, en disant c'est bon, vous pouvez y aller, ok, d'accord. Mais c'est vrai que ça sent vraiment la ficelle scénaristique vraiment un peu tirée par les cheveux pour pouvoir justifier les combats de voitures, quoi.
Une sorte de mini, c'est même pas une fausse note, mais c'est une note qui était pas nécessaire. C'est une note en plus. En même temps, s'il y avait pas eu ça, je me demande si on n'aurait pas dit, ah bah, c'est que exactement la même chose, mais bon. Mais c'est pas mauvais, même ça. Et franchement, au niveau l'écriture, les surprises qu'on a, je suis hyper séduit, quoi. Sylvain, t'y as joué, toi, ou pas?
Alors, non, j'y ai pas joué. J'ai vu quelques amis y jouer, mais non, effectivement, je peux pas.
Bon, d'accord.
Je peux pas vraiment juger.
Moi, je lui donne... c'est marrant parce que The Witcher, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, au bout de quelques heures, je l'ai trouvé un petit peu trop... j'ai même tendance à dire répétitif. Parce que j'ai un peu... Je vais faire une hérésie, là, mais c'est toujours la même chose, finalement. Le Witcher, tu prends une mission, tu utilises ton Witcher Sense, tu regardes un petit peu à droite, à gauche, tu vois le truc rouge, tu le suis, il te dit « Ah, ça doit être ça ». Tu avances vers le truc et tous les combats se ressemblent. Enfin, je sais pas. Moi, je suis... C'est très personnel, hein, mais j'ai l'impression que l'aspect variété... où tu ouvres la bouche et puis il y a Rocksteady qui te donne une cuillère de je sais pas, de compote de carotte.
De Batmobile.
Là, tu fais « Ah, elle est bonne, cette carotte ». Mais là, je commence à en avoir un peu marre. « Ah bah, tu prendrais bien une cuillère d'infiltration ». Ah bah oui, là, je suis très, très heureux d'avoir de l'infiltration. Et tu es très, limite, passif. C'est l'aspect parc à thème. Tu y vas, tu fais ci, tu fais ça. C'est beaucoup moins construction d'un monde entier vivant qui respire. Mais moi, je crois que pour moi, c'est ce genre d'expérience qui me fait plus vibrer, quoi.
Ouais. Pour le coup de Witcher, c'était vraiment, pour moi, c'est pas les quêtes en soi. Le schéma des quêtes, effectivement, est assez répétitif. C'était vraiment l'univers qui jouait. Mais là, c'est vrai que dans Batman, ils ont l'air d'apporter une variété scénaristique qui est tout autre, quoi.
Ouais, c'est très étudié, le gameplay. Pardon, JK.
Non, je dis, en plus, c'est vrai que tu croises énormément de personnages secondaires, forcément, que ce soit des gentils ou des méchants. Alors, des fois, ça fait un peu trop galerie de stars qui arrivent comme ça, un peu pop par hasard.
Des caméos à la chaîne.
Ouais, voilà. Mais cela dit, ça permet de justifier quand même de nouvelles missions secondaires qui sont plutôt intéressantes. Et donc, ça c'est super bienvenu. Et moi après, j'aime bien plutôt suivre la quête principale. Donc, disons que l'un prend pas le pas sur l'autre. Donc, tu peux quand même, si tu as envie de suivre ta quête principale, il y a un système de gestion des quêtes qui est très simple et
très malin, ouais. Le truc de la roue, là.
Ouais, de la roue pour choisir sa quête, sa suite de quêtes, etc. C'est bien fait. Et puis, juste, ils sont très, très bons pour faire de la mise en scène sans cinéma. C'est-à-dire que tout le jeu se passe quasiment avec la vue de Batman, ne serait-ce que quand il parle à Alfred via son écran, on reste toujours en contrôle du héros, même pendant qu'il parle, même pendant les cinématiques. Et ça, je trouve que depuis le début, c'est vraiment une des grosses qualités, je trouve, dans Rocksteady, c'est la capacité à nous immerger dans le truc, parce qu'on reste tout le temps vraiment au contrôle du héros, quoi.
J'irais même jusqu'à dire qu'il y a une ingéniosité de mise en scène avec les jeux de caméra qui sont... tout à fait incroyable. Enfin, il y a des moments où tu es dans la scène et tu vois quelque chose qui se passe et puis tu te retournes, le décor a changé et ça. Enfin, c'est hyper, hyper, hyper bien réalisé, quoi. Ouais.
Ils ont une capacité à vraiment créer des moments scriptés qui n'ont pas l'air d'être des moments scriptés, quoi. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est vrai qu'effectivement, pour le côté psychologique, il y a vraiment des trucs que j'avais pas vu dans un jeu depuis, peut-être jamais même, tu vois.
Bon, donc quand même une belle réussite cet Arkham Knight, si vous pouvez y jouer. Voilà. Moi, je le recommande sans aucune hésitation, quoi.
Si vous jouez sur PC, c'est mort déjà.
Donc, il faut attendre un tout petit peu.
Ouais.
Bon, parlons un petit peu de Microsoft qui avait fait, selon certains, même si ça en a énervé d'autres, une conférence peut-être un petit peu moins brillante, éclatante que celle de Sony. Eh bien, il y a pour Microsoft un deuxième effet qui se coule, qui va arriver dans quelques semaines à peine à la Gamescom, puisqu'ils vont avoir une conférence à la Gamescom qui sera pas juste une redite de la conférence 3, mais qui va présenter des jeux qui étaient absents justement de cette conférence 3, à savoir Scalebound, Quantum Break et Crackdown. Ils ont annoncé qu'ils allaient les présenter. Entre parenthèses, ça sera pas les seuls jeux qu'ils vont présenter là-bas, mais c'est les gros morceaux que tout le monde attend. Vous les attendez, vous, ces jeux-là, ou il y a autre chose que vous attendez peut-être à la conférence Microsoft de la Gamescom?
Non, pas spécialement. Je les attends pas spécialement, mais c'est vrai que déjà de 1, pour moi, c'était une très bonne conférence qu'ils ont fait à l'E3, et c'est assez rigolo en fait de les voir refaire une conférence derrière à la Gamescom. Et ça pose aussi la question de pourquoi est-ce que ces jeux-là étaient pas à l'E3. Ça m'étonne un peu en fait qu'ils aient fait l'impasse sur ces jeux-là à l'E3.
Bah, c'est parce que justement, dès le début, ils avaient annoncé qu'ils se gardaient des cartouches pour la Gamescom, parce qu'en fait, ils font, je crois qu'ils font quasiment un an sur deux, ils font une conférence Microsoft l'année dernière à la Gamescom. Je crois qu'il n'y avait pas de conférence. Une année, c'était rigolo. En fait, il devait y avoir une conférence et je crois 24 heures avant ou 48 heures avant, elle a été annulée. Je dis ça parce que Microsoft m'a proposé de la couvrir, etc. Ouais. M'avait invité, hein. Et 24 heures avant, ils me disaient, finalement, elle est annulée. Ok, bon, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, pour annuler une conférence quand même deux jours avant, il y a dû avoir quelque chose de sérieux qui a dû se passer, quoi.
C'est clair, c'est clair. Ouais. Donc, Scalebound, Quantum Break, moi, Crackdown, c'est un truc que j'attends un petit peu parce que je suis arrivé sur Xbox 360 après la folie Crackdown. C'était un gros jeu de la génération précédente, du début de la génération précédente, et il a jamais eu de suite. Et du coup, je me dis, ça serait intéressant de voir ce que ça peut donner, surtout avec ce trailer de folie qu'ils avaient montré l'année dernière, où il y a l'un des personnages qui utilise un immeuble pour qui fait effondrer un immeuble pour accéder à un autre immeuble en roulant dessus. C'était n'importe quoi.
Quantum Break,
je suis un peu... Oui, Crackdown. Ouais.
Okay,
Quantum Break, je suis un peu moins convaincu parce que ça reste très nébuleux. Ouais. Et Scalebound, je vous avoue, je sais même plus ce que c'est.
Bah, Scalebound, en fait, je viens de voir, moi, j'avais oublié aussi, et c'est un. Je sais pas si le jeu a été présenté. Enfin, on a vu à quoi ça ressemblait, mais déjà, c'est développé par Platinum, qui a l'habitude de faire
énormément de jeux en ce moment.
Voilà, qui font des bons jeux qui ne se vendent pas, malheureusement.
Ouais.
On exagère, mais bon, c'est Bayonetta.
C'est les Bayonetta.
Vanquish. Donc, ils font des super bons jeux en général, mais et là, ce sera plutôt de la fantasy. Donc, faut voir. Et moi, quand Quantum Break, je suis assez. Mais effectivement, c'est très nébuleux, mais moi, j'aime vraiment beaucoup Remedy, donc les développeurs qui font ce jeu et qui ont fait notamment Max Payne et Alan Wake. Ils sont super bons, pas forcément pour faire des jeux au gameplay hyper solide, mais pour instaurer des ambiances et raconter des histoires. Je trouve que vraiment c'est vraiment un super studio, donc j'espère qu'avec Quantum Break je vais retrouver au moins ces qualités là quoi.
C'est vrai que bon, Quantum Break, c'est Max Payne, c'était un énorme morceau quand il est sorti, mais ça commence à dater quand même énormément. Mais ils avaient un certain, on parlait de scénario tout à l'heure avec Batman. Max Payne, c'était l'un des premiers jeux qui avait un vrai scénario écrit de fil noir hyper prenant. Pourquoi pas? C'est sûr que ça peut être intéressant. Et puis cette histoire de voyage dans le temps, manipulation du temps localisé qui est un petit peu bizarre, ça pourrait être intéressant. Et encore une fois, le dernier Scalebound, j'avais oublié, t'as raison, c'est moi, Bayonetta, c'est un jeu que j'aime vraiment pas mal, même si c'est le genre de jeu que je veux aimer et que je veux avoir une bonne raison d'aimer, et j'ai jamais vraiment eu le temps d'y jouer. Et là, pourquoi pas, Scalebound, un gros partenariat avec Microsoft. Surtout que ça y est, j'ai ma Xbox One.
Ah, ça y est.
Oui. J'en parle depuis, des mois et des mois. Je dis que j'aurai une Xbox One à un moment. Eh bien, ça y est, je l'ai. Et donc, je peux aussi vous livrer mes premières impressions sur la console. J'ai... Comment dire? Je l'ai prise principalement pour... Master Chief Collection, et que j'avais jamais joué à Halo, en fait. Donc, je vais découvrir Halo, ça va être incroyable. Et j'ai du coup downloadé Killer Instinct aussi, et j'attends Tomb Raider énormément. Et du coup, pour ces jeux-là qu'on vient de citer, je serai prêt. Mais j'avoue que ma première impression de la console au niveau interface, je me demandais, en fait, quand ils ont présenté la nouvelle interface à l'E3, je me disais, ah oui, bon, des gens qui sont excités pour une nouvelle interface, pourquoi pas? C'est bon, mais du coup, maintenant que je l'ai essayé, je comprends un peu, hein. C'est très confusing, je trouve, l'interface de la Xbox One. Il y a des trucs partout, je sais pas où. Alors, je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude, mais je me dis
que elle est beaucoup moins épurée que l'interface de la PS4, je trouve, en tout cas. Ouais. Mais peut-être qu'on s'y retrouve. Je pense que quand au bout de 2, 3, 4 ans, quand t'as des dizaines de trucs installés, des jeux, etc., je pense qu'on s'y retrouve mieux sur Xbox que sur PS4, parce que sur PS4, faut que tu fasses défiler les trucs jusqu'au bout pour trouver tous tes jeux, etc. Là, possible. Xbox, c'est, je pense qu'à terme, ça s'avère un peu plus intuitif.
Ah, mais s'il faut possible. Attendre 4 ans pour que ça devienne intuitif, au bout d'un moment, on a perdu un peu le but premier.
Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord.
Okay. Oui, oui, pas mal. Mais bon, bref, donc voilà, moi j'ai ma Xbox One, je voulais juste le mentionner. Maintenant, j'ai toutes les consoles de la génération. C'est pour le travail, hein, bien sûr. C'est
parce que tu peux, tout, as la Ouya, je suis désolé, tu n'as pas toutes les consoles.
Non, mais je parle de
la Ouya. C'était racheté par Razer, d'ailleurs, la Ouya. On n'en parle pas, mais.
Oui, bah si, on l'avait mentionné il y a quelques temps. Ouais.
Tout le monde a déjà oublié.
Donc voilà, ça c'est pour Microsoft et la Gamescom. J'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. C'est dans un mois exactement. Et entre parenthèses, Sony ne sera pas en reste puisqu'ils auront une conférence à la Paris Games Week. Donc ça c'est en septembre ou octobre, je ne sais plus.
C'est octobre, je crois.
Je vérifie. Ouais. Je me souviens que ça a coïncidé toujours avec la BlizzCon quand.
Je crois que c'est fin octobre. Hein. C'est vraiment assez tard dans l'année. Hein.
Ouais.
Et parce qu'on dit souvent que les gens qui vont à Paris Games Week, ils jouent à des jeux qui sont déjà sortis. Quoi. Ils font la queue pour jouer à des jeux qui sont déjà sortis.
Je t'avoue qu'à la Gamescom, moi, il y avait des années où il y avait des gens qui faisaient la queue pour jouer à World of Warcraft sur la version qui était disponible.
C'était
assez incroyable.
C'est
ouais.
Mais c'est vrai que juste pour. Vas-y, Sylvain, vas-y.
Non, c'est juste que j'ai envie de dire que c'est quand même tout à fait curieux de voir Sony à la Paris, tenir une conférence à la Paris Games Week, quoi, qui est en train de s'installer malgré tout comme un événement qui n'est plus justement que ce festival où tu peux aller tester des jeux sortis, tu vois. Il peut y avoir aussi des annonces, ce genre de choses. Et je pense que ça fait du bien quand même d'avoir ça.
Ouais.
C'est vrai. J'ai pas mal d'espoir pour la Paris Games Week que ça puisse devenir. C'est un événement important au niveau du nombre de
la fréquentation.
Oui, c'est ça, au niveau des chiffres. Et bon, évidemment, c'est le problème de la Paris Games Week, c'est qu'elle est trop proche de Noël, donc il reste plus rien à annoncer. Et ouais. Et du coup, peut-être que là, Sony qui n'a rien à Noël justement peut avoir des trucs pour le début 2016 à montrer. Mmh. Entre parenthèses, vous avez vu la version étendue du trailer de Uncharted 4 qui était, enfin du trailer, du gameplay de Uncharted 4 qui avait été montré à l'E3. Ils avaient montré 7 minutes à l'E3 et là c'est la version de 15 minutes qu'ils ont publiée il y a quelques jours. Vous l'avez vu ou pas?
Ouais, je l'ai regardé en direct sur Twitch hein, et là c'était clair. Enfin, encore une fois, c'était une démo avec un mec qui jouait, et a priori c'était vraiment un mec qui jouait, et ouais, c'était super. Enfin, moi je suis de toute façon, je suis comme toi Patrick, je suis absolument fan de la série et j'ai super hâte. Et c'est vrai que c'est cool parce que là on a vu vraiment la suite de ce qui se passe après, donc quand il est suspendu au filin et qui se crache contre une sorte de panneau en bois là, et là t'as une scène de, mais c'est marrant, c'est qu'en fait ils arrivent à rendre des séquences de jeu qui sont hyper bateaux, voilà, des séquences de shoot sur rail où t'es à moto et tu tires sur des mecs, on en a vu des dizaines, mais ils arrivent à rendre ça hyper impressionnant et hyper fun quoi. Et ça, ça c'est vraiment un truc vraiment typique de Naughty Dog quoi.
Ça m'a fait penser au meilleur moment d'Uncharted 2. J'ai trouvé le 3 un tout petit peu en retrait. Mmh. Mais là, c'est... D'ailleurs, entre parenthèses, je sais pas si vous avez entendu toutes les histoires dont t'as fait état Nolan North, qui est la voix de Drake dans Uncharted, selon lesquelles, en fait, quand l'équipe de The Last of Us de Neil Druckmann est arrivée sur Uncharted 4, ils ont un petit peu tout changé, ce qui s'était fait avant, et je me souviens plus du nom de la femme qui était en charge de Uncharted avant.
Amy Henning.
Voilà, Amy Henning. Elle a démissionné elle est partie de chez Naughty Dog, et en fait, sans doute, il y a eu une sorte de désaccord entre les deux, et je sais pas quoi en penser, parce que d'une part, Amy Henning était derrière Uncharted 2, qui était le meilleur de la série et qui était incroyable, enfin il est l'un des meilleurs jeux de l'histoire, et en même temps le 3 était un tout petit peu en dessous, et The Last of Us est l'un des meilleurs jeux que j'ai vu de ma vie, j'y ai rejoué, je l'ai refini quand j'étais en Finlande, je l'adore plus que tout, et du coup je me dis qu'ils savent quand même ce qu'ils font au niveau narratif, au niveau de l'histoire, c'est quelque chose de vraiment une qualité supérieure. Et du coup, je sais pas quoi en penser de cette remise à zéro du truc, quoi.
Bah, c'est compliqué parce que effectivement, de toute façon, on connaît pas toute la salade en interne, mais disons que le fait que ce soit les équipes de The Last of Us qui a repris le contrôle du truc, c'est rassurant, clairement. Après, The Last of Us et Uncharted ont quand même des tonalités extrêmement différentes. Donc, ouais. Là, pour du peu qu'on en sait, on sait pas, mais est-ce que Uncharted 4 aura une tonalité un peu plus sombre, que les précédents épisodes? J'espère pas trop parce que faut que ça reste, voilà, du fun, de l'aventure et ce qu'apportait Amy Henning, à mon avis, à la série. Donc, et puis je pense aussi que Naughty Dog, que ce soit Amy Henning ou une autre équipe, ils ont quand même des objectifs de qualité à atteindre. Je pense qu'au-dessus, Christophe Balestra et son collègue, je sais plus comment il s'appelle, le deuxième, on le contrôle, et si ça atteint pas un certain niveau de qualité, je pense que le jeu est repoussé. Enfin, Naughty Dog, ils peuvent se permettre de repousser un jeu tant que ça atteint pas les critères recherchés, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ouais. Autre nouvelle déclaration tonitruante de Sony, selon laquelle la PlayStation 4 aurait 70 à 90% du marché des consoles en Europe. J'imagine qu'il parle quand même des consoles de 8e génération, hein. On parle pas de toutes les consoles, tous chiffres confondus, mais 70 à 90%. 70%, je veux bien le croire, ouais, l'Europe est traditionnellement un territoire, enfin la France en particulier, plutôt PlayStation que Xbox. C'est pas le cas en Angleterre, et on sait l'avance qu'a pris la PlayStation 4 sur la Xbox One. 90%, le truc, c'est que il y a plein de territoires où la Xbox One n'était pas présente à son lancement, alors que la PlayStation était présente un petit peu partout à son lancement. Donc, ouais. C'est, enfin, quoi qu'il arrive, c'est un chiffre assez impressionnant. Il y a certainement des petits astérisques à mettre ici et là, pas des petits astérix, parce que sinon ça sert pas à la même chose. Mais bon, c'est clairement. Moi, je pensais pas que la situation était aussi inquiétante pour Microsoft. On se souvient qu'ils, leurs derniers chiffres font état d'à peu près 10 millions de consoles vendues pour la Xbox One, alors que Sony s'approche plutôt des 15-20 millions, quoi.
Ouais, après, c'est quand même des chiffres qui viennent du président de Sony Europe. Et autant, comme tu dis, 70%, ça peut paraître probable. Autant que 90%, je sais quand même pas trop où est-ce qu'ils vont les chercher, parce que j'ai ne serait-ce que. Je sais pas, à mon échelle, je vois pas du tout, tu vois, ce genre de ratio autour de moi.
Mais je pense que les 90%, c'est certains pays où la Xbox One soit n'est pas sortie en même temps, soit elle n'est pas sortie du tout. Donc forcément, effectivement, 90%. Et puis c'est des pays sans doute beaucoup plus petits. Il y a certains pays comme, je sais pas, la Turquie, Chypre, des pays de ce genre-là. Bon, il parle de l'Europe, donc a priori c'est plutôt Chypre, mais enfin bref, il peut y avoir certains pays où de toute façon le marché est tout petit. Donc 90, ça fait pas, ça compte pas pour grand chose. Mais le truc qui est important, c'est que même si on prend la fourchette basse, 70%, c'est quand même beaucoup, quoi.
C'est clair. Après, en plus, traditionnellement, il y a des pays, enfin notamment les pays latins, l'Espagne, l'Italie, qui sont extrêmement attachés à la marque Sony. La France est pareil. Enfin, la France a toujours été un pays très très Sony. Ce qui est finalement la marque Microsoft, il y a vraiment surtout aux États-Unis qu'elle est vraiment hyper implantée. En Europe, ça reste quand même majoritairement du Sony, peut-être pas en Angleterre, mais c'est vrai que là, cette année pour cette génération, là pour le moment, ça va être compliqué pour Microsoft de rattraper le retard, et d'autant plus que bon, là, ça c'est encore autre chose, mais au Japon, bon, c'est une catastrophe évidemment, mais notamment début juin, je crois ils ont vendu 100 Xbox One.
Ouais.
Pendant sur une semaine, je sais plus quelle semaine, ils ont vendu 100 Xbox One, quoi. C'est affreux, quoi.
Ouais. C'est ridiculement spectaculaire.
C'est ça. C'est terrible, ouais.
Bon, après, c'est le Japon, hein, malheureusement. Je sais même pas pourquoi ils continuent, en fait, à essayer de vendre leur console au Japon, parce que ça leur coûte de l'argent.
Mais oui, mais tu peux pas ne pas vendre au Japon, parce que.
Ils sont obligés de vendre pour le présent. Principe, quoi.
Il faut être présent pour le principe, bien sûr, au Japon. C'est une question de principe, mais c'est aussi une question d'avoir une certaine présence sur le marché japonais. Ça te donne une présence dans l'esprit des développeurs japonais. Et on sait que les développeurs japonais sont très importants. Bon, à des degrés variables, mais sont relativement importants pour vendre des consoles aussi en Occident. Donc, je pense pas que Microsoft puisse se permettre d'abandonner complètement le Japon. Bon, là, clairement, ils sont plantés encore plus qu'avec la 360, ce qui était difficilement imaginable. Mais ils peuvent pas se permettre de ne pas y être.
Oui, donc, oui, certes.
Mais bon, d'ailleurs, entre parenthèses, il y a le rapport du CEL, du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, pour la première moitié de l'année 2015 qui a été édité. Et on voit que dans les je sais pas pourquoi, il y a un top de 19 jeux qui étaient montrés sur l'article de Gamekult par l'excellent Oscar Lemaire. Les 19 premiers jeux, il n'y en a pas un seul sur Xbox, sur Xbox One. Ouais. C'est... Enfin bon, bref. Donc, on a beau... C'est une situation très compliquée dans laquelle ils sont, Microsoft, et... Oui. Bon, on leur souhaite bon courage. Hein. Et entre parenthèses, Nintendo aussi est dans une situation un petit peu compliquée. Je crois que l'analyse après coup de cette conférence assez catastrophique... Là, par contre, autant il y a des gens pour Microsoft, il y a débat sur la réussite de la conférence, autant chez Nintendo, il y a très très peu de gens qui sont sortis des commentaires pour venir me dire qu'en fait, il y avait des choses bien chez Microsoft, chez Nintendo, pardon. Dans les commentaires, on m'a parlé de Xenoblade et de ce genre de choses. Pour Microsoft, on m'a parlé aussi, on m'a dit « Ah, mais il y a Recode, il y a Ion, il y a tout ça dans la conférence de l'E3. » Ouais, c'est pas des trucs mauvais, mais bon. Bref.
On commence à aller chercher dans la niche là, à ce moment-là.
Ouais, mais... c'est un peu ça, ouais. Mais donc Nintendo, je crois qu'ils ont clairement fait le deuil de la Wii U, et on entend parler de début de production pour la NX dès octobre, mais ça serait pas une production de masse, ça serait des je sais pas d'ailleurs comment ça se passe exactement, mais ça serait pas encore la production de masse. La production de masse commencerait début en mai ou en juin, ce qui légitimise, crédibilise la théorie de la sortie à Noël 2016, avec Nintendo qui annonce que la sortie serait digne de Nintendo, avec donc des chiffres plus importants que ceux qu'on a connus dans les dernières consoles.
Bah, le truc, c'est que digne de Nintendo, ça fait quand même un moment qu'on sait plus trop ce que ça veut dire, quoi, parce que ils ont tendance à faire des lancements de consoles un peu ratés, hein, il faut quand même pas se mentir. Ils sont tout le temps, et c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours un peu, ils sortent toujours un peu dans le creux, ils sont tout le temps les premiers à sortir leur machine, et pourtant, ils font tout le temps systématiquement une espèce de flop. Enfin, du moins avec la Wii U.
On se souvient que la 3DS a très mal démarré aussi.
Bien sûr.
Historiquement, même la DS, la première DS qui a fait un carton, au début, c'était pas foufou. Hein. En fait, il y a que la Wii qui a vraiment cartonné dès le début parce que.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a une grosse hype autour de la Wii, mais sinon sur les dernières consoles, les lancements ont pas été fous chez Nintendo.
Il faut remonter loin pour avoir des lancements qui emballent un peu les foules, quoi.
Exactement.
Bon, moi je veux y croire, je veux croire que Nintendo, qui est un développeur, un éditeur, un constructeur que j'adore, parce qu'ils savent faire du bon game design, j'espère qu'ils vont réussir le lancement de la NX, et à vrai dire, il y a très peu de doutes qu'ils sont maintenant entièrement focalisés sur cette console, parce que justement, s'ils ne veulent pas le rater, ce lancement, il faut qu'ils soient à fond sur la NX. Il faut qu'ils commencent à développer à fond dessus, si on est à un an et demi de la sortie. Et entre parenthèses, ils annoncent que la Wii U, bien sûr, continuera à être exploitée pendant que la prochaine console sera... Enfin, pendant les débuts de la prochaine console. On peut tout à fait l'imaginer. Moi, je me demande s'il n'y aura pas plus qu'une rétrocompatibilité avec la Wii U. Je me demande s'il n'y aura pas un truc... Enfin, je sais pas, genre que ça soit une sorte de Wii U améliorée, portable et salon en même temps, mais Je sais pas. Je sais pas s'ils vont pas faire une sorte de truc qui fera que le catalogue Wii U, qu'ils vont pas abandonner les utilisateurs, les joueurs Wii U. Mais
bon. Ah, tu crois toi que ce serait une espèce d'évolution de la Wii U, ou du moins un truc qui capitaliserait sur le socle qu'il y a déjà?
Je sais pas, peut-être.
En tout cas, ils ont annoncé la production de 20 millions de machines. Je sais pas si vous réalisez ce que c'est, 20 millions de machines, c'est monstrueux. Je sais plus combien il s'en est vendu la première année de PlayStation 4, mais je crois que c'était quelque chose de l'ordre de 16 millions, si je dis pas de bêtises.
Peut-être un petit peu moins, mais autour de ça, ouais.
Un truc comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont partis pour avoir des attentes aussi élevées qu'à ce truc-là. Après, si effectivement on parle d'une console de salon, ce serait très impressionnant, ou du moins très optimiste. Si on parle après d'une machine qui est peut-être portable, effectivement, peut-être plus tournée vers le jeu mobile, téléphone, ce genre de choses, c'est peut-être plus des chiffres aussi énormes que ça.
Bah en fait, moi j'ai lu une analyse très intéressante sur, je crois que c'était chez Polygon, je ne sais plus exactement, mais j'avais lu une analyse très intéressante sur le fait que, en réalité, c'est pas la Wii U qui est en fin de vie, c'est la 3DS. Donc, la 3DS, elle commence à être véritablement âgée, je vais pas dire très âgée, et surtout, au niveau puissance, elle montre plus que ses limites, déjà qu'elle était pas très puissante à sa sortie. Donc, celle qui doit vraiment être renouvelée, c'est plutôt la console portable de Nintendo. Ils vont jamais abandonner leur marché de portable qui est énorme. Du coup, on peut imaginer que s'ils prévoient des chiffres pour une sorte d'hybride, salon et portable, il compte sur des ventes cumulées de l'intérêt des joueurs pour ces deux segments, et tout à coup on se dit que c'est pas forcément une idée aussi saugrenue que ça de se dire qu'ils vont en vendre, bon, ils en produisent 20 millions la première année, ils sont pas obligés de tous les vendre immédiatement, mais
ça arrivera sûrement pas d'ailleurs.
Ouais.
Ouais. Et puis ce qu'ils ont intérêt à faire aussi, je crois que c'est Iwata qui le disait, que comme tu dis, c'est un lancement qui sera digne de Nintendo, et il précisait que il faudra pas reproduire les erreurs des précédentes consoles. Donc on peut espérer peut-être aussi un gros line-up au lancement, c'est-à-dire que avoir direct un Mario inédit, peut-être un Zelda. Je pense que et disons pour attirer les joueurs dès le début, quoi, dès le départ, où les hardcore gamers, même le public de Nintendo qui est quand même assez énorme, s'ils voient qu'il y a un Zelda qui a l'air très bon, et puis un Mario par exemple, ou un Mario cartes, idéalement, ils vont y aller, quoi. Donc ça peut être aussi un indice sur le fait que voilà, ce soit une console qui compte énormément et qui rattraperait les erreurs de communication et de production des précédentes, quoi.
Ouais, avec la Wii U notamment, ce que disait Miyamoto, c'était qu'il n'avait pas réussi à démontrer l'utilité de la tablette Wii U au début, et que donc ça avait découragé tout le monde. Bon, moi je reste convaincu que l'utilité, ils n'ont pas réussi à la montrer parce que elle n'existe pas. Mais bon, peut-être peut-être que lui il est plus intelligent que moi, il connaît mieux le game design que moi, donc peut-être que
c'est marrant, parce que l'utilité principale de la Wii U tablette, du Wii U Gamepad, pour moi c'est le fait de pouvoir jouer de manière déportée sur ton canapé à des jeux Wii U, quoi. Donc c'est vrai que du coup on verra bien la NX qui serait une sorte d'hybride qui te permettrait de jouer à ton Zelda sur ton, avec un des beaux graphismes et tout chez toi dans ton salon, et continuer ta partie d'une manière ou d'une autre dans le métro sur une sorte de support portable. Je sais pas.
Très compliqué au niveau gameplay,
ouais,
ça. Hein,
ouais, très compliqué. Non, mais là, oui, on est clairement dans la théorie. Et puis, après, Nintendo, ils nous ont quand même surpris. Ils ont quand même plus d'une fois. Enfin, depuis la DS, le double écran, la Wiimote, c'était vraiment des trucs.
Ils n'ont pas toujours du succès, mais ils sont toujours surprenants.
Oui. Voilà, ils innovent toujours, quoi.
Moi, je reste convaincu que même la DS, même la 3DS, enfin, la 3DS, c'est clairement un gimmick débile. Ça, je crois que personne n'a jamais activé la 3D. Et la DS. Bon, c'est sympa et on l'utilise parce que c'est là, mais le nombre de jeux qui ont effectivement
tiré
parti du deuxième écran, et même de l'écran tactile dans une... Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est pas ça qui fait la force de la console. La force de la console, c'est les excellents jeux designés très intelligemment, qui finalement, à de rares exceptions près, on va dire, allez, peut-être qu'il y en a 15% qui n'auraient pas pu exister ailleurs, mais à de rares exceptions près, ils auraient pu exister sur autre chose. Donc, je suis pas 100% convaincu que ça soit le design hardware. Et bon, la Wii U, on sait ce que ça a donné. Ça a marché comme le Rubik's Cube, mais les vrais joueurs, entre guillemets, n'ont jamais voulu gesticuler plus de quelques minutes devant leur console avec leur Wiimote. Donc, et pareil avec la Mablette. Donc, toutes ces innovations, ça fait du buzz pour Nintendo et c'est très important et ça les met sur le devant de la scène. Mais à mon sens, au niveau gaming, au niveau design, ça a jamais été des vraies réussites, quoi.
Ouais, je suis pas complètement d'accord sur la partie tactile. Je trouve que à l'époque, beaucoup moins sur 3DS, mais sur la DS, il y a quand même eu un paquet de jeux, je trouve, qui utilisaient le double écran et le tactile. Des trucs, voilà, des jeux que tu utilisais en mode livre pour faire un truc comme si tu lisais un roman. Des moments où il fallait carrément fermer la console pour coller deux images. Enfin, il y avait des trucs super. Il y avait, bon, après, c'était pas tout le temps dans tous les jeux, mais il y avait quand même. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'innovations sur la première DS.
C'était trop ponctuel, en fait.
Ouais, je sais pas.
Je dis, il y avait peut-être 15% de titres qui l'utilisaient effectivement. Donc, j'admets qu'il y en avait. Je dis pas qu'il y en a eu aucun. Mmh. Mais c'est pas ça qui a fait vraiment que la console était un succès. Tu vois, je sais pas. Enfin bon, à mon sens,
je sais pas, parce que n'oublions pas que la DS est sortie à une époque où les écrans tactiles n'étaient pas du tout démocratisés. Hein. Aujourd'hui, l'iPhone, etc. Ok, mais à l'époque, c'était nouveau et je trouve qu'il y a eu quand même des super idées, ne serait-ce que les WarioWare, les trucs comme ça.
Oui, non, bien sûr. Non, mais encore une fois, je dis pas qu'il y en a pas eu, mais quand on donne des exemples, je suis pas certain qu'il y en ait plus de, 15% des bons titres qui soient des titres qui prenaient vraiment avantage. Et oui, il y en a dans ces 15%, tu vas en trouver. Mais...
Non, mais souvent, cette minorité de jeux a fait que les gens ont acheté une DS parce qu'ils trouvaient ça super cool et puis derrière, il y avait des vrais bons jeux en plus qui utilisent ou pas ces gimmicks, quoi.
Mais il faut surtout, là, je pense qu'ils fassent un peu table rase de ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils avaient tendance un peu à semer eux-mêmes la confusion entre la DS et la 3DS. Je pense que le public n'a pas forcément vu la différence entre la Wii et la Wii U.
Ça,
ils ont carrément rien compris du tout. Et là, il faut vraiment qu'ils arrivent avec un concept qui ne ressemble pas à leurs anciennes consoles, mais qui puisse vraiment être, faire rêver un peu l'imaginaire du joueur, tu vois.
Ah, puis là, il faut carrément qu'ils arrêtent avec les noms Wii, etc. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils passent à autre chose en termes de nom de machine.
Changer de nom déjà pour éviter les conflits.
J'espère qu'ils vont pas l'appeler la Wii 3, quoi, parce que là, ce serait ridicule.
La Wii 3DS.
La Wii 3DS, super.
Oui, entre parenthèses, on peut pas parler d'innovation matérielle chez Nintendo sans quand même évoquer le gamepad de la Nintendo 64, qui était là pour le coup l'arrivée véritablement de la manette analogique du petit joystick sur les consoles, stick analogique, qui était là effectivement une innovation majeure du monde du jeu vidéo. Donc oui, il y en a eu quand même, c'est sûr.
Bah bien sûr. Puis bon, il y a le Virtual Boy quand même, mais bon, ça.
Oui, non mais ça, tout le monde s'en souvient.
C'était une blague.
Bon, passons aux news suivantes. Vous avez vu les vidéos de gameplay de Star Wars Battlefront ?
Bah, moi, en fait, là, j'ai cliqué sur le lien que tu as mis dans le document et la vidéo avait été retirée. Donc
d'accord.
En fait, j'ai vu les images en 4K, là. Et c'est très, très beau. Hein, là, il n'y a rien à dire. De toute façon, le moteur de DICE, il est vraiment très, très impressionnant pour ce genre d'environnement. Quoi.
Moi, ce qui m'a tout petit peu, pas inquiété, mais ramené sur terre, c'est le fait qu'au final, le gameplay en lui-même, autant les images qu'on avait vues à l'E3 qui étaient incroyables, qui donnaient des impressions de faire partie d'une bataille épique sur la planète Hoth et de faire partie de ce combat entre l'Empire et la Rébellion, autant là, le gameplay, t'es un couillon qui court partout sur le champ de bataille. Tu tires sur des rebelles quand tu les vois et tu te fais tirer dessus quand ils te voient. C'est beaucoup plus FPS classique, quoi, ou TPS classique. Donc, ça me fait... Je dis pas qu'il sera pas bien, mais ça me ramène mes rêves de vivre Star Wars à quelque chose d'un petit peu plus réaliste, je pense.
Ça a clairement été un peu survendu, je pense. Ça va être forcément un gameplay un peu plus vide, tout simplement. Un peu plus ressemblant à un Battlefield ou un truc comme ça, quoi. Plus classique.
Ouais.
Enfin, pour être honnête, tout le monde le disait, et même nous, et même moi, je le disais en même temps qu'on voyait ces images. Mais bon, c'est vrai que le fait de le voir, du coup, tu constates que effectivement, c'est et peut-être que ces images-là étaient pas, cette partie-là était pas hyper excitante, et donc peut-être que les autres seront mieux. Mais bon.
Après, c'est le genre de jeu, si tu veux vraiment peut-être reproduire ces sensations, c'est de jouer en team avec les mêmes gens comme d'habitude, communiquer par la voix, et il y a des vidéos de matchs de Battlefield qui sont hyper épiques, hein, donc il y a pas de raison qu'ils puissent pas le reproduire dans Battlefront.
Les mecs qui vont faire des reconstitutions à l'échelle 1 avec tout le monde en rôle.
C'est ça. Et ça se trouve, il y a des mecs qui vont jouer roleplay à fond.
Non, c'est sûr. Et entre parenthèses, on parlait de Amy Henning tout à l'heure. Elle est chez Visceral Games pour un jeu Star Wars qui sera, selon encore Nolan North, qui a été très volubile dans son panel, c'était Dragon Con, je crois. Il a dit que c'était un jeu qui serait a priori dans le style de Uncharted. Donc un jeu Star Wars dans le style de Uncharted, moi je signe tout de suite. Toutes les jeux qui marchent pas à la sortie, précommandez pas. Si c'est bon, moi je précommande, j'achète, je paye. Je suis en train de jeter de l'argent à mon sur mon écran là.
Mais là, ce qui est hyper intéressant dans ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, il dit dans le style de Uncharted, parce qu'en plus, évidemment, Amy Henning a rejoint Visceral, et il a aussi cité le nom de Star Wars 1313, qui était un projet abandonné. Abandonné suite au rachat de Lucas par Disney, qui était en fait, clairement, à l'époque, le Uncharted de Star Wars, et le jeu avait été présenté à l'E3 2012. Moi, je me rappelle l'avoir vu ce jeu, et c'était complètement dingue. Enfin, c'est-à-dire que c'était plusieurs années avant la nouvelle génération de consoles, et on était déjà sur un jeu qui ressemblait à un jeu de nouvelle génération et qui était même encore plus beau que les jeux qu'on a aujourd'hui. C'était hyper impressionnant. Sauf que derrière, c'était juste une démo de 10 minutes et j'avais été quelques mois après directement chez LucasArts à San Francisco. À l'époque, je travaillais pour Joystick.
C'était pour faire les cartons, non ?
C'était 6 mois avant le rachat, hein, donc tout allait bien a priori. Et sauf que moi, j'arrive pour voir le jeu, j'étais hyper excité et qu'est-ce que je vois ? La même démo qu'à l'E3. Et tu vois, c'était c'était extrêmement difficile de savoir ce qu'était vraiment ce jeu, à part le fait qu'il voulait faire un jeu à l'Uncharted. Donc là, j'ose espérer que peut-être que Visceral a peut-être récupéré peut-être des anciens de l'équipe hein, pour faire un jeu dans cet esprit-là. Ce serait vraiment super parce que ça avait l'air vraiment excellent leur jeu, quoi.
Eh ben écoute, on attendra. Il disait que c'était pas 13-13, hein, que c'était un autre jeu, mais...
Non, mais ce serait dans les... Enfin, voilà, il a cité 13-13 et Uncharted comme référent. Parce que voilà, et ce qui me laisse effectivement énormément d'espoir, parce que voilà, comme toi, un mélange d'Uncharted dans un monde à la Star Wars, ça va être difficile de pas s'emballer, malheureusement.
C'est sûr.
Même si c'est EA, il faut se méfier d'EA, mais bon, quand même.
Il a aussi parlé du fait, confirmé le fait qu'il y avait bien un Last of Us 2 en développement. Et là, je crois franchement qu'il y a quelqu'un de chez Naughty Dog qui a appelé Nolan North après ce panel et qui lui a passé un savon parce qu'il a révélé tellement de trucs. Enfin, c'est pas tellement de trucs, mais surtout des trucs qui, a priori, ne se disent pas. Comme le fait que The Last of Us 2 était en développement, ce qui n'était pas du tout une certitude, vu que le premier était une histoire complètement indépendante et terminée. Encore que ça a été un tel succès qu'il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas de suite. Mais ça a provoqué un débat sur Twitter, entre quelques amis et moi, sur la question, est-ce qu'il faut faire une suite à The Last of Us, qui est, comme je le disais, une histoire tellement parfaite dans sa complétude, qu'elle n'appelle pas du tout de suite, a priori. Est-ce qu'il faut faire un Last of Us 2 ? Là, j'ouvre le débat.
Moi, j'ai adoré. Enfin, pour moi, The Last of Us, c'est effectivement le meilleur jeu de la génération précédente. Mais non, effectivement, je n'aimerais pas voir une suite dans le sens retrouver les mêmes personnages. Par contre, j'aimerais un autre jeu dans le même univers, en fait, avec d'autres personnages, une autre intrigue, etc. J'aimerais vraiment retrouver cet univers avec une autre histoire et d'autres personnages. Alors, c'est peut-être ça qui développe, hein, je sais pas, mais je vois mal comment, enfin, si, parce que la fin de The Last of Us, on va pas la révéler, mais ça pourrait, il pourrait y avoir une suite, mais, je les vois pas aller vraiment là-dessus, je les vois plus sur un Last of Us 2, mais avec d'autres personnages et
tu peux avoir une histoire parallèle, à la limite.
Oui,
mais,
voilà.
Pas une suite canonique, quoi.
Ouais, moi, il y a deux sentiments qui se confrontent chez moi. C'est d'une part le fait qu'effectivement, il n'y a pas de besoin de suite et qu'il est parfait comme il est et que ça peut, en fait, salir la beauté du jeu s'il y a une suite qui est moins bien ou qui fait des compromis ou ce genre de choses. Mais en même temps, je l'ai tellement aimé ce jeu, j'ai tellement adoré, j'ai tellement aimé l'univers, je me dis, mais ça serait dommage de le laisser à l'abandon. On peut se dire, oui, c'est la pureté du jeu qu'on a sorti et qui était parfait tel quel, mais en même temps, c'est un truc qui a été construit, qu'on a adoré, qui est complètement oublié, qui ne servira plus jamais, c'est un petit peu dommage aussi. Et du coup, je me dis, il y aurait moyen de faire une suite. De reprendre les personnages mais de les placer à un autre moment soit dans le passé, soit dans le futur, soit ce genre de choses, ou je sais pas, un des deux personnages, ou, et je vais pas trop en dire parce que je veux pas non plus spoiler, mais ce genre de choses, je suis convaincu que ça serait hyper intéressant de que ça soit suffisamment déplacé, non pas dans l'espace ou dans les personnages, mais dans le temps. Pour qu'on garde cette familiarité des personnages qu'on adore, mais que ça soit suffisamment loin pour qu'ils soient pas liés à...
Ouais, en fait, dans tous les cas, ils partent quelque part où on les attend pas du tout, en fait.
Bah exactement, ouais. Bah, ils avaient déjà un peu exploré des pistes comme ça avec le DLC Left Behind, je sais pas si tu l'as fait, Patrick.
Ah, il était magnifique, qui est
exceptionnel.
Ce DLC.
Et justement, ça raconte des portions de l'histoire qui étaient restées un peu dans l'ombre. Enfin, il y en a un, c'est carrément un flashback avant le début de l'histoire, et un autre, c'est vraiment une portion du scénar principal qu'on connaissait pas. Et elle est, et voilà, et il y avait des idées de mise en scène qui étaient fabuleuses. Et donc, oui, peut-être qu'ils peuvent aller effectivement dans cette direction aussi, quoi.
Bon, on verra. Je suis sûr qu'on aura au prochain E3 un petit trailer de Last of Us 2 ou une annonce ou quelque chose comme ça, parce que ça commencera à être temps.
Ouais.
Bon, quelques petites news en passant rapidement. Le International de Dota 2, le championnat a des prix allant à... Enfin, le prize pool, comme on dit en français. Le total des prix que vont gagner les participants, des gains, c'est 15 millions de dollars.
Ouais.
Voilà, je le pose là. Pour ceux qui ne savent pas, Dota 2 marche de manière un petit peu assez intéressante pour les championnats. Ils ont, enfin pour le championnat principal, l'international, ils font participer la communauté énormément. C'est-à-dire que la communauté peut acheter des objets dont une partie du prix revient à Valve, une partie revient au prix. Et il y a toutes sortes de vies communautaires pour tout ça. Je ne connais pas à 100%, donc je ne vais pas donner les détails pour ne pas me faire incendier par les fans. Mais le résultat, c'est que c'est 15 millions de total des gains.
Ouais.
Impressionnant.
15 millions de total des gains, et je crois qu'on est quasiment à 7 millions de récompenses pour l'équipe qui va remporter le tournoi, en fait. Ça, c'est quand même... On arrive dans des chiffres qui sont complètement dingues. Je veux dire, c'était le plus gros cash prize qu'il y avait eu sur ce genre de MOBA. C'était déjà Dota, c'était l'an dernier, c'était 12 millions qui avait été financé aussi par le système de compendium. Donc, c'est ça qu'achètent les joueurs, en fait, sur Steam, et qui leur donne droit à des récompenses. Et là, cette année... Enfin, déjà l'an dernier, ils avaient été surpris d'atteindre 12 millions, Valve. Cette année, ils se sont dit, bon, bah écoutez, on va mettre des récompenses jusqu'à 15 millions, et ils les ont eues. Je pense s'ils avaient mis des récompenses à 20 millions, ils auraient peut-être eu. Ah ouais, non, mais ils les auront l'an prochain, tu vois. Ça paraît évident. C'est complètement dingue.
Un truc qui est aussi complètement dingue, mais inattendu au possible, c'est le fait que Pokémon Shuffle soit disponible sur iOS et Android cette année. C'est fou, quoi. On s'y serait jamais attendu.
Quelle surprise. Et puis, que d'argent dans les poches de Pokémon Company et de Nintendo, quoi.
Bon, c'est pas les jeux que Nintendo développe avec DNA, hein. C'est
non,
un
c'est
truc
chose,
à part.
Hein.
C'est Pokémon Company.
Mais bon,
donc...
c'est quand même un premier contact, quoi.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'était un jeu qui était tellement calqué sur les mécaniques de free-to-play de téléphone que c'est pas très surprenant.
Ouais.
Red Ash, un nouveau jeu de Kenji Inafune, après la sortie imminente de Mighty No. 9, une sorte de clone de Mega Man, il propose Red Ash, qui est, alors, c'est un mélange entre un jeu et un animé. Et ils sont sur Kickstarter. Et ils ont besoin de combien? 800 000 dollars, un truc comme ça.
En fait, il y a deux Kickstarter. Il y en a un pour le jeu et un pour le film d'animation. D'après ce que j'ai compris, si je ne me trompe pas. Et en gros, ouais, le jeu à peu près, c'est 5 ou 800 000 dollars.
Une pacotille.
Une broutille.
Bon, bah, pour un jeu, oui, c'est pas grand chose.
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Après, je ne sais plus combien il avait eu pour Mighty No. 9, mais qui était déjà passé par Kickstarter aussi.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on dit.
Après son jeu, il est décrit comme une sorte d'action RPG, mélange d'action RPG et de TPS, qui reviendrait apparemment sur des bases d'un jeu qui avait été annulé. Je crois que c'était Mega Man Heroes, je crois que c'est ça.
D'ailleurs, il fait un clin d'œil pas qu'un peu gros à cette mésaventure qu'il a eue chez.
Ouais, c'est ça. Moi, après, je sais pas. J'ai un peu de mal avec avec Inafune et puis même plein de gens sur Kickstarter qui revient. Bah, par exemple, typiquement le mec qui fait Bloodstained, qui fait la suite de Castlevania. Non, mais c'est ça. Oui, voilà. C'est vraiment tous ces gens qui reviennent avec des concepts qu'on connaît par cœur, même si c'est des bons jeux et qui récoltent de l'argent sur Kickstarter pour faire des trucs qu'on connaît déjà. Je sais pas, moi j'ai Kickstarter, autant je soutiens Kickstarter depuis le début, là je commence un peu à avoir le mauvais côté, bah, avec Shenmue 3, hein, pour en parler aussi, mais bon.
Tu commences seulement à le voir.
Non, mais bah, moi tu sais bien que je suis un grand optimiste, Sylvain,
effectivement.
Mais là, je me dis que, ouais, ce côté, la nostalgie et le fanservice sur Kickstarter prend le dessus et c'est un peu dommage, quoi.
Bah, disons que quand t'as plus besoin de convaincre ton éditeur, mais seulement un public qui t'est déjà acquis parce que t'as fait 56 000 Megaman avant,
Si
les mecs veulent retrouver la même chose, ça paraît facile, tu vois. Eux, ils veulent leur Megaman, lui, il veut du boulot. Bon, bah, ça paraît donnant, quoi.
Je suis un petit peu déçu aussi qu'il y ait quasiment que les projets nostalgie qui réussissent sur Kickstarter. J'en avais déjà parlé d'ailleurs, mais en même temps, il faut que les gens qui vont donner de l'argent aient un truc auquel se raccrocher. Et forcément, ça va être un énorme succès. Enfin, ça va être un plus gros succès quand t'as un truc auquel tu peux te raccrocher. Et le truc auquel tu peux te raccrocher, c'est un truc que tu connais déjà ou un développeur que tu connais déjà ou une idée que tu connais déjà.
Ouais.
Il y en a quelques-uns qui réussissent des trucs nouveaux. Mais d'ailleurs, je me plaignais souvent de cet aspect nostalgie. Et du coup, j'ai soutenu, comment il s'appelle, Umbral, qui est un jeu... une sorte de point and click, de hack and slash, pardon, développé par un Français qui, lui, n'est pas qui a l'air pas mal du tout, et ça n'est pas un type qui a déjà fait 12 000 jeux qu'on connaît déjà. Donc, je me suis dit, allez, il y a un truc nouveau par un nouveau développeur, et en plus, c'est un Français, donc je vais le soutenir. Mais en même temps, quand les choses sont dites clairement, quand ils expliquent... parce que ce qui me déplaisait beaucoup sur Kickstarter, c'était les abus. Où on disait, bah, on va vous faire un jeu pour 1 million, et évidemment, 1 million, t'as pas de quoi faire le jeu que tu annonçais, et donc tu déçois tout le monde, le jeu ne sort jamais, tu rembourses pas l'argent, bon, enfin, t'es pas censé le rembourser même, c'est pour essayer d'aider, mais...
Bah, regarde, bon, Broken Edge, là... par exemple, c'est un peu le cas. Hein.
Oui et non, Broken Edge, il est sorti en deux parties, mais il est sorti.
Oui, mais bon, finalement, l'argent récolté de base n'a largement pas suffi. Quoi.
Oui, c'est ça. Mais bon, ouais. C'est sûr. Alors que là, maintenant, avec cette génération de jeux, c'est clairement dit, on récolte de l'argent pour montrer aux éditeurs qu'il y a un intérêt des joueurs. Et donc, ensuite, on va aller chercher de l'argent ailleurs pour pouvoir sortir le jeu. Ça me paraît... C'est un petit peu... y a pas de mal. Personne est lésé dans l'histoire. Tout le monde sait dans quoi il s'engage. C'est une relation entre adultes consentants. Donc, ça me dérange moins, quoi.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même le risque, au final, qu'un éditeur qui ait été démarché puisse quand même interférer quelque peu avec les plans initiaux du Kickstarter, quoi. Mais surtout, ce que ça nous apprend, on va dire, un peu toutes ces années de Kickstarter, c'est que la plupart des gens, déjà, ne sont pas forcément curieux, et surtout que les gens ne sont pas forcément des philanthropes. C'est-à-dire que soit tu leur sers là, ce qu'ils aimaient déjà, soit bah, d'eux-mêmes, ils iront peut-être pas forcément voir les nouveautés. Et je dis ça, je veux dire, je me place là-dedans, hein, je suis complètement pas plus normal. Curieux qu'un autre, tu vois. J'ai beau arpenter Kickstarter, je back pas non plus 56 000 trucs, alors que dès que je vois Ron Gilbert qui me sort un point and click, il y en avait 20 ans, bah, je le paye quand même, c'est complètement con,
c'est ce que
je le sais,
dire. C'est ce que
j'arrive pas à me raisonner, mais c'est vraiment que le truc a été, enfin, ça a été récupéré par le système aussi. Si on commence à revenir vers les éditeurs, c'est que ça commence à devenir une espèce de voie royale, en fait, pour des éditeurs un peu frileux, tout simplement.
Ouais. Bah oui, c'est vrai qu'on dit ça, on se plaint et tout, mais sans Kickstarter, un Wasteland 2, un Pillars of Eternity, qui sont des très bons jeux, n'existeraient pas, tout simplement.
Ouais, exactement.
Et ça, c'est quand même bien pour ça. Après, c'est vrai qu'on se plaint du truc, mais comme dit Sylvain, moi, c'est pareil, comme une andouille, j'ai backé le jeu de Ron Gilbert, le point and click, comme si sortait en 88.
Mais... Bah, pareil avec Bloodstained, moi, j'ai payé tout de suite, quoi. Ouais. Alors que j'étais le premier à me plaindre du fait que, mais bon.
Ouais. On fait partie du système, on s'est fait avoir, c'est tout.
Exactement. Non, mais moi, le pire, c'est que j'ai même pas du tout l'impression de m'être fait avoir. Le type, il m'a dit, voilà, on a besoin de temps pour, et on aura tant des éditeurs derrière. Le jeu, on espère qu'il sortira en 2017, mais bon, si c'est 2018, soyez pas étonnés. Et voilà. Et du coup, j'ai acheté le fait de participer au rêve du truc, quoi. Mais bon.
Mais on finance le manque de prise de risque aussi de l'industrie, quoi, quelque part. Peu tragique, on est en train de saboter le système de l'intérieur. Bah, on sera les premiers à gueuler quand les jeux seront tous les mêmes. Et on aura été les financer.
Mais ouais. J'allais dire, ils sont déjà tous les mêmes, mais c'est même pas vrai. Ça m'énerve, tu sais, quand les gens disent, ouais, il y a que des suites et des machins. Parce que c'est pas vrai.
Ah non,
c'est pas vrai. Il y a des jeux nouveaux, intéressants, innovants tout le temps.
Il y a beaucoup de suites qui prennent très souvent la lumière, mais il y a aussi beaucoup de très bons jeux, de plus en plus d'ailleurs, j'ai l'impression.
Ouais. Et c'est vrai que ça vient pas toujours des gros éditeurs, mais ça arrive aussi. Et... Bon, bref, suite du Kickstarter Corner, Shenmue 3, qui sera disponible sur PlayStation 4, sur PlayStation 4 en, sur disque. Vous avez vu le mock-up le screenshot qu'ils ont mis de la boîte PlayStation 4
C'est fou, non?
C'est ignoble, mais enfin c'est fait
affreux.
Avec Paint, mais c'est comme la vidéo de ce Kickstarter.
Elle était affreuse.
C'est immonde et moi vraiment là c'est un niveau où ça m'inquiète quoi. Ouais. T'as vraiment l'impression que ils sont quatre dans une chambre et ils se disent ton cousin là il sait pas utiliser Paint sur Windows. Ouais. Bon appelle-le, dis-lui de nous faire un mock-up de la boîte PlayStation 4. Ouais, OK, je vais faire ça, tu lui payes une bière, ça
marche. Ils ont ressorti les mêmes mecs qu'en 2001, tu vois, ils te refont les mêmes T'as vraiment l'impression qu'ils ont des chutes, en fait, que tu te prends des chutes de 2001-2002 qu'ils avaient abandonnées. C'est vraiment tragique, quoi. Le jeu a l'air...
C'est qu'on parle de Shenmue 3, un jeu qui était à la conf Sony, etc. Et pour le moment, t'as l'impression que c'est d'un amateurisme assez triste, quoi. Bon, effectivement, y a, pour le moment, ils n'ont rien à montrer, parce qu'ils n'ont rien, tout simplement, quoi. Mais ils ne devraient rien montrer ou à ce moment-là, qu'ils montraient ça.
À vrai dire, c'est même pas tellement les images du supposé jeu qui m'inquiètent, parce que ça, oui, ils n'ont même pas commencé le développement, forcément, ils n'ont rien. Moi, ça m'inquiète pas vraiment, parce que j'imagine qu'ils auront des gens un petit peu plus professionnels, mais ce qui m'intrigue, c'est la qualité de la production des vidéos. Enfin, de la vidéo, je l'avais déjà dit, mais là, de cette image de la boîte PlayStation 4, c'est...
C'est un truc photoshopé merdique.
Mais c'est pire que photoshopé merdique. C'est Paint merdique. Enfin, et du coup, tu dis, mais est-ce qu'ils ont pas une équipe un tout petit peu professionnelle qui travaille sur l'élaboration du projet au moins? C'est parce que Inafune et pour Red Ash, Mighty No. 9, Bloodstained, tout ça, tu sens qu'il y avait quand même une équipe derrière qui était en train de préparer un truc hyper sérieux pour le Kickstarter. Tu sentais qu'ils y allaient à fond, quoi.
Ouais.
Là, t'as l'impression qu'ils sont trois, dont deux qui sont là juste pour regarder et applaudir, quoi. Enfin, c'est...
Mais surtout
ça me fait un petit peu mal pour Yu Suzuki, qui est quelqu'un qui a une histoire. Enfin, c'est l'un des piliers de feu Sega, mais... Bref. On verra, ça se trouve, ils vont faire un Shenmue 3 incroyable. Mais...
Le mock-up qui est quand même terriblement flou et qui est absolument...
Oh là là.
C'est terriblement amateur, et c'est ils sont moqués jusque sur Kotaku. Les mecs ont fait un post en titrant Shenmue 3 Placeholder Box Art is Hilarious. Enfin, je sais pas parler, mais
Hilarious.
Mais c'est vraiment ils en font deux pages pour raconter à quel point c'est mauvais. Mais c'est vrai que l'image est saisissante de laideur.
Bon, peut-être que c'est voulu, c'est tellement gros, ça se trouve, ça leur donne une image modeste. Enfin, en même temps, il y a Sony qui va payer le marketing derrière, mais bon.
Ouais. Sauf, c'est une blague depuis le début, chez Shenmue 3, en fait, c'est Gabe Newell qui va annoncer Half-Life 3 derrière, tu vois, pour maximiser l'effet, quoi.
C'est comme Kojima qui avait fait une sorte de montage pour annoncer Ground Zeroes.
Il y a une fausse société, ouais.
Bon, on attendra de voir. Et enfin, toujours dans le corner Kickstarter, Star Citizen, le module FPS qui s'appelait Squadron 42, non ? Je crois que c'est ça.
Non, Squadron 42, c'est la campagne solo, je crois.
Mais c'est ça, non?
J'ai un doute, je suis pas sûr que ce soit ça, mais bon.
Bon, enfin bref, le module FPS, ici, je crois que c'est Squadron.
C'est ça.
A été décalé, il était censé sortir là, c'est maintenant, et il a été décalé parce qu'il n'arrive pas à faire, il n'est pas au niveau auquel il voudrait le faire. On se dit qu'il est devenu tellement ambitieux, ce jeu Star Citizen, avec des modules partout, des trucs d'exploration, d'espace, de FPS, il y a plein de, c'est vraiment Star Citizen. Alors, c'est aussi le projet crowdfundé le plus gros de l'histoire. Ils en sont à quoi, 70, 80 millions de dollars. Et c'est devenu genre 5 jeux en un, quoi. C'est très imposant. Et bon, là, il semble que ils ont assuré. Je suis vraiment encore en vacances aujourd'hui. Richards. Roberts, voilà.
Chris Roberts.
Vous m'avez confusé avec
Richard Garriott.
Il a annoncé que le jeu sortirait bien et qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils étaient en train de travailler dessus, mais qu'ils n'étaient pas encore, il n'était pas encore au niveau qu'ils voulaient.
Ouais, puis bon, ce module FPS, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que les gens, c'est pas pour ça qu'ils ont soutenu non plus Star Citizen, quoi. Mais
non, c'est sûr.
Mais d'ailleurs, ça s'appelle Star Marine, le mode.
Ah, d'accord.
Mais,
merci.
Oui. Mais qu'est-ce que je, oui, enfin, ça me fait quand même un peu peur, effectivement, que ça, enfin, peu importe le fait que ce soit crowdfundé ou pas, c'est que il a quand même levé, enfin, il a 80 millions de dollars, mais il a un jeu qui a l'air d'une ambition. T'as l'impression que c'est un jeu qui vaut trois fois plus, en fait.
Ouais, c'est un peu ça.
Je suis même pas sûr que ce soit suffisant, 80 millions, quoi. Après, il continue à récolter des thunes parce que des gens vont payer un vaisseau 40 dollars, etc. Mais disons que si il continue, enfin, si le développement devient un truc sans fin et que dans 5 ans c'est toujours en phase de bêta, ça va se prendre un retour de bâton, peut-être des joueurs qui auront lâché je sais pas combien pour un jeu qui est jamais sorti, quoi. Enfin, qui est jamais sorti vraiment, quoi.
Bon, on verra. Ouais. Et enfin, deux petites news rapides. Destructoid, qui est un site de jeux vidéo, de news de jeux vidéo, qui sort son magazine. Le magazine Destructoid, oui, vous avez bien lu, un magazine qui sort tous les deux mois, un magazine papier, qui est disponible aussi si vous faites un abonnement à la version premium de Destructoid. Ce qui est pas bête, moi je trouve ça pas bête du tout. Il y a vraiment un public pour les magazines papier, et c'est pas Sylvain qui nous dira le contraire. Et bon, voilà, c'est une initiative intéressante. Moi, je reste convaincu que le papier n'est pas mort parce que il y a un attrait du magazine papier. J'ai lu je lis régulièrement, j'y vais le mag notamment, mais j'ai lu par exemple un Mad Movies il y a quelques jours de ça, un pote l'avait acheté, et c'était l'article sur Mad Max qui était super bien fait, mais c'est le genre de contenu qu'on n'a pas sur Internet, ou si on l'a, on ne prend pas le temps de le lire. Enfin, conditionne le contenu. Et donc, voilà, c'est une initiative magazine papier plutôt sympa. J'imagine que ça te parle, toi.
Ah oui, bien sûr. Moi, ça me parle forcément. Je veux dire, c'est une problématique auquel je me frotte quotidiennement. On ne peut pas écrire la même chose sur le web et sur le papier. Après, dans la mesure où là, c'est un magazine qui est sorti par, à la base, un site web, je ne sais pas, je t'avouerai que je n'avais pas vu la news avant. Je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est des reprises, on va dire, d'articles qui auraient été un peu écartés sur le web, qui remettent sur le papier pour lui donner peut-être un peu plus de noblesse, ou d'essayer de donner un peu de temps au lecteur de s'attarder dessus, ou est-ce que c'est vraiment du contenu créé spécialement pour le papier, quoi.
Mais c'est une bonne question. Je sais pas s'il sera disponible en France, mais c'est à explorer. Ouais.
Dans tous les cas. Ouais. C'est une bonne initiative, je suis toujours content, je suis toujours heureux en tant que journaliste de papier de voir qu'il y a des gens justement qui sortent des magazines.
Tout à fait. Et enfin, un petit site qui devrait plaire à certains d'entre vous, qui s'appelle Beeper, B-I-I-P-E-R. Merci à @MrFrançoisP et @NotMeo qui m'ont signalé le site. Vous cherchez un Beeper, B-I-P-E-R. C'est sur abandonware.org, et c'est en fait un site qui réunit plein de musiques de vieux jeux vidéo qui sont qu'on peut écouter librement. C'est une sorte de Spotify du vieux morceau de jeux vidéo.
D'accord.
Est-ce que tu es toujours là, Jika? Non, il est plus là.
Donc,
j'ai un souci d'internet. Vous savez quoi? Je vous rappelle dans deux secondes.
D'accord.
Et donc, je parlais de Beeper. Vous avez essayé ou pas?
Ouais, alors écoute, franchement, super découverte. Moi, je connaissais pas hein, avant que tu me mettes le lien dans le document. Et mais c'est vachement bien, c'est génial. Enfin, je trouve ça top d'avoir toutes ces BO de jeux. Après, je m'interroge sur le.
Il n'y a pas tout, hein, mais. Ouais, oui, mais non, la légalité, mais à mon avis.
Bah ouais, enfin. Après, c'est un site qui est géré par Abandonware France. Donc, qui est un site très connu d'Abandonware où on peut trouver beaucoup, beaucoup de très vieux jeux. Enfin, de jeux plus ou moins vieux gratuitement. Hein. Souvent, l'Abandonware, c'est toléré, on va dire, par certains éditeurs. D'autres l'aiment pas trop parce qu'ils aiment bien vendre eux-mêmes leurs vieux jeux. Mais là, pour le coup, parce que t'as quand même des BO de jeux récents, hein, t'as Mass Effect, j'ai vu, t'as des trucs, t'as des Castlevania,
ah,
etc.
J'avais pas vu qu'il y en avait des si récents.
Ouais, y a aussi du récent, et c'est vachement bien. Enfin, en plus, tout est intégré dans un player et tout, c'est très très sympa. Après, j'espère qu'ils vont pas te embêter, ou alors peut-être qu'ils payent des droits à quelqu'un, mais ça, je sais pas, je m'interroge.
Ouais. Bon, en tout cas, vous pouvez essayer. Vous cherchez simplement Beeper et vous trouverez tout de suite le site. C'est très simple. Eh bien, écoutez, messieurs, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça va? Vous avez survécu à la canicule?
Ouais.
Moi, j'ai passé un excellent moment. Je voudrais pas que ça s'arrête. C'était trop court.
Mais ça ne s'arrêtera pas.
On peut faire la même, chose du début, quoi. On peut recommencer du début, quoi.
D'accord, pas de problème. Allez. Alors, donc, Batman Arkham Knight.
Bonjour, c'est Patrick.
Bon, non, je vais pas imposer ça aux auditeurs. Est-ce que vous pouvez plutôt me dire s'ils veulent continuer effectivement ou ils peuvent vous retrouver sur Internet? À commencer par Jika, parce que Sylvain, c'est pas que sur Internet.
Sylvain, c'est pas que sur Internet. Eh bien, JK non plus en même temps. Mais bref, donc moi, JK, donc professionnellement parlant, maintenant je suis sur plein de choses, entre guillemets, sur ZQSD, bien sûr, le podcast, mais je laisserai Sylvain en parler parce qu'il en parle mieux que moi, je suis sûr. Maintenant, je suis un petit peu sur jeuxvideo.com, je suis sur la presse papier, je suis sur les magazines Video Gamer et PC Gamer, et bientôt dans un hors-série JV dont je ne peux pas vraiment parler, donc voilà.
Mais il y a des choses secrètes qui se passent?
Ouais, non, c'est pas. Enfin, je sais pas si je peux pas en parler, d'ailleurs, peut-être que si, mais du coup.
Je sais pas. Tant qu'on l'a pas annoncé, je pense qu'on va le garder.
On va se faire engueuler par Bruno, il vaut mieux.
Voilà, juste que j'ai bossé sur hors série avec JV, voilà. Et Twitter, @JK, JK Loret, LAURET.
Magnifique. Sylvain.
Alors moi, on peut me retrouver sur Twitter @_Oupi. On peut me retrouver effectivement sur ZQSD avec l'excellent, le sémillant Jika. On sort une émission pas plus tard que tout à l'heure, quelques heures après cette émission là, j'imagine. Donc un podcast jeux vidéo sur PC où on parle de plein de trucs, où on dit plein de bêtises. Et on peut également me lire sur le magazine, l'excellent magazine JV Le Mag, dont le numéro d'été va sortir dans quelques jours.
Vous faites sur quoi le numéro d'été, tiens?
Le numéro d'été, on fait, c'est pas vraiment sur l'E3, je sais plus vraiment comment on l'a titré, putain, je suis affreux en termes de commercial.
D'accord.
Un peu sur les tendances à venir, en tout cas dans le jeu vidéo.
D'accord, très bien. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, sur Twitter, c'est NotePatrick. C'est Patrick avec un note devant. Vous pouvez aussi retrouver cette émission et d'autres sur frenchspin.fr, et vous retrouverez notamment le rendez-vous tech où on couvre toute l'actu tech toutes les deux semaines comme on le fait dans le rendez-vous jeu. D'ailleurs, le dernier épisode était un numéro spécial où on a parlé d'hygiène informatique, où on vous explique un petit peu, et moi j'essaye de comprendre aussi comment fonctionnent toutes ces histoires de gestionnaire de mots de passe, d'authentification double facteur, de VPN, pourquoi c'est important, pourquoi il faut y faire attention, et surtout, comme toujours dans le rendez-vous tech, on l'explique de manière simple et distrayante pour que ces choses qui sont si importantes, j'ai pris l'exemple du fait qu'on se lave bien les mains régulièrement, hein, j'espère en tout cas. Et pour l'informatique, il y a aussi des règles d'hygiène simples à suivre et à savoir. Mais c'est tellement compliqué et il n'y a personne qui nous l'explique simplement qu'au final, on n'a pas l'habitude de le faire. Là, vous avez un moyen simple et encore une fois, amusant, distrayant de le faire. C'est le rendez-vous tech et j'espère que vous irez l'écouter également. En tout cas, il y a toutes sortes de choses sympas sur frenchspin.fr. et donc sur Twitter, NotPatrick, et également sur Facebook, NotPatrick. Je commence à être un petit peu plus actif sur la page Facebook que je tiens, et il y a des petites choses de temps en temps, des petites choses sympas comme des conseils de comics, de films, tout ça, de séries. Donc vous pouvez y aller également, c'est NotPatrick partout. Je vous remercie tous de nous avoir suivis, je remercie Sylvain et Jika d'avoir participé à l'émission, et on se retrouve dans 15 jours pour le suivant. Ciao à tous.
Salut.
Salut.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.